Vous êtes à l'écoute de l'émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains. Et nous avons choisi pour cette émission de regarder le livre du Deutéronome. En première lecture, dans les églises catholiques, on aura un extrait du livre du Deutéronome. Ça nous donne un bon prétexte pour entrer, je dirais, dans la connaissance de ce livre. Et un des thèmes, c'est celui de l'élection, hein, c'est-à-dire un peuple qui a été choisi, hein, le peuple d'Israël, peuple de Dieu. Hein, on trouve au verset 34... Est-ce qu'un Dieu a entrepris de choisir de venir se prendre une nation au milieu d'une autre, comme tout ce que Yahvé, votre Dieu, a fait? Alors, allez-y.
Oui. Au fond, il y a tellement de beaux thèmes dans le Deutéronome, mais là, on en prend un problématique, puis c'est correct, c'est de bonne guerre. Le Deutéronome est le premier livre à utiliser le verbe « choisir » pour dire la relation entre Dieu et Israël. Le lectionnaire a ajouté « choisir » dans la phrase que vous nous avez lue au verset 34.
D'où mon hésitation,
ouais,
justement. Oui,
parce que je l'ai mis entre parenthèses, ça qui n'aide personne. Mais c'est au verset 37, par contre. Et comme le lectionnaire a coupaillé un tout petit peu, comme souvent, et ils ont sauté le verset 37, on est toujours au chapitre 4. « Parce qu'il aimait tes pères, le Seigneur ton Dieu a choisi leur descendance. » Donc, le verbe est là, vraiment. Et ce verbe, donc, exprime une relation privilégiée, hein. C'est pour ça que c'est un problème aujourd'hui, là, parce qu'on se dit, est-ce que Dieu a des chouchous formulés dans des catégories familières? Pour nous, c'est parce que Dieu, on est tellement conscient d'une sorte d'universalité là, qu'on trouve ça bizarre. Alors, c'est ça qu'on va essayer d'éclairer un petit peu. C'est clair que le Deutéronome joue massivement le thème de l'élection du peuple, c'est-à-dire du fait que ce peuple est choisi par Dieu. Et il va aussi, le Deutéronome, déployer... je dirais, le ton d'une relation très intense entre Dieu et son peuple. Par exemple, il va répéter constamment « Le Seigneur ton Dieu, le Seigneur votre Dieu, le Seigneur mon Dieu, le Seigneur notre Dieu. » Ça revient « Le Seigneur, le Dieu de tes pères. » Ça revient constamment. Ici, je fais une parenthèse, là, on a toujours le Seigneur. Les gens qui sont dans leur tobe, traduction œcuménique de la Bible, vont voir que c'est le Seigneur écrit en majuscule. Et les gens qui ont leur Bible de Jérusalem vont voir qu'en fait, c'est Yahvé qui est là. Et bon, la tendance de l'exégèse actuelle est d'éviter de prononcer ce nom propre du Dieu d'Israël, qui est Yahvé. C'est ce que reflète la tome, qui remplace et non pas traduit, je rappelle, parce que j'entends trop souvent des gens dire que tome traduit Yahvé par Seigneur, c'est pas une traduction du
tout. C'est un choix.
Oui, et c'est pas une traduction. Yahvé, ça veut pas dire Seigneur. Yahvé, c'est comme un nom propre, tout simplement. Le Seigneur, ça veut dire plutôt le maître, hein, c'est un titre respectueux, comme on le trouve d'ailleurs dans le vocabulaire du Moyen Âge à propos des seigneurs, les seigneuries, comme on le trouve encore dans le vocabulaire épiscopal, là, lorsqu'on dit à un évêque « Monseigneur ». Donc, je trouve que ça affaiblit. Et là, je vais dire « Yahvé » le plus souvent qu'autrement, parce que le Deutéronome cherche à personnaliser au maximum la relation entre Dieu et son peuple. Ça fait partie de la manière dont il gère le fameux thème de l'élection, là. Et donc, il me semble que c'est bien de dire le nom propre de Dieu, puisque c'est là-dessus que le Deutéronome joue. Ton Dieu, il s'appelle Yahvé. Hein? C'est pas Dieu, c'est pas un Dieu, c'est pas le Dieu, celui-là. C'est celui-là, c'est Yahvé. Donc, je vais l'utiliser plus souvent que ce qu'on fait habituellement. Une autre caractéristique assez frappante partout dans le Deutéronome, et on l'a dans le texte d'aujourd'hui aussi, c'est un mélange de « tu » et de « vous ». Ça y est, cet auteur-là, il ne savait pas écrire ou il a été distrait, vous voyez. Le lectionnaire a corrigé d'ailleurs... Il y a un verset où c'est clair, y a-t-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de Dieu? Donc, le peuple est désigné « tu » ici. Et puis, le verset suivant, « Tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte, sous tes yeux. » Là, on se dit, bon...
Oui, en français, ça fait...
En français, c'est une faute. En hébreu aussi, c'est une faute. Mais c'est une faute volontaire,
oui,
puisque c'est constant dans ce livre.
C'est oui, ce n'est pas une question de traduction, vous avez raison. Parce qu'en hébreu, on peut dire « vous », on peut dire « t'es » aussi. C'est
oui, il y a un pluriel, puis il y a le singulier, absolument. Et donc, on pourrait dire que c'est une faute que le lectionnaire a corrigée, mais en fait, on ne devrait pas la corriger. Ce n'est pas une faute, c'est comme ça tout le long, dans le livre du Deutéronome.
Donc, il y a un mélange du « tu » et
oui,
du « vous ».
Oui, ça personnalise ouais. beaucoup, beaucoup. Ça accentue la thématique relationnelle. Ce n'est pas un « vous ».
Général
ouais. ou c'est ça. Ouais. Tu, c'est à toi que je parle. Et puis même si vous êtes 2000, c'est à toi. Et on se dit, OK, donc c'est le tu à chaque individu membre de cette assemblée ou mieux, c'est cette assemblée comme un seul homme. Si j'emploie ouais. une expression ouais. Assez courante. Hein. Mm-hmm. Le peuple est un. Et si le peuple est un, il est donc une communauté. Il n'est pas juste un groupe de personnes, c'est une communauté.
C'est ça. Donc, ce n'est pas une agglomération de personnes. Mm. Il s'agit donc de personnes constituées en un corps.
Oui,
on peut dire, pour
oui.
reprendre l'expression de saint Paul, oui. qui, lui, l'a probablement copié dans le monde antique. C'est une expression qu'on employait. Donc, il est membre des gens qui sont membres d'un corps, hein, d'un corps social. Et la parole s'adresse donc et à l'individu personnellement, et à l'ensemble des individus, mais constitués comme corps social.
Oui, hein, absolument. Mm-hmm. Et ça accentue l'aspect communautaire dans la mesure où le projet de la Torah qui va être proposé, si on ne le vit pas communautairement, il ne fonctionne pas. Ça concerne tout le monde, finalement. Mm-hmm. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde s'y mette, vous voyez. Donc, le peuple est un devant la Torah. Il est un devant Dieu. Le peuple est un aussi à travers le temps. C'est-à-dire que le peuple à qui le livre s'adresse maintenant, c'est le même que celui à qui Moïse parlait il y a 2 siècles ou 3 siècles ou 4 siècles, selon l'époque où on est, où on lit le livre. Et c'est le même qui était au Sinaï. Ce ne sont pas les mêmes personnes, on se comprend bien.
C'est ça.
Hein, les premiers sont morts depuis longtemps. Moïse va dire, quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne et que tu y habiteras, hein, donc, voyez, on a demain, on a aujourd'hui, je te dis aujourd'hui, et je te rappelle, hier, on était au Sinaï.
Voilà.
Comme donc, si c'était toujours la même génération.
Ouais, ouais, ouais. C'est une parole qui transcende le temps et l'espace.
Oui, hein. Et donc, une conscience identitaire collective. Qui transcende le temps et l'espace. Lorsque Moïse va dire « c'est pas à nos pères que Dieu a parlé, c'est à nous », il n'y aurait pas besoin de dire ça si c'était le cas. Si c'est à nous qu'il a parlé, on le sait, on s'en souvient. On sait que c'est pas à nos pères. À qui on dit des choses comme ça? À des gens qui, justement, n'étaient pas là et c'est à leur père. Et ils se font dire « regarde, c'est vrai que c'est à vos pères, là, mais au fond, c'est à vous. » Le peuple là, est concerné maintenant. Donc, vous voyez que ce n'est pas Moïse qui parle. Hein? C'est à travers le temps, toujours le même peuple qui était au Sinaï, qui est entré en terre promise et qui va continuer. Donc, un peuple unifié et une identité collective communautaire forte. Ça, c'est un aspect de l'élection hein, du peuple de Dieu. Un autre aspect, c'est que ce peuple-là se donne comme lieu de naissance, la sortie d'Égypte. Donc, la libération que Dieu fait envers lui et le don de la loi au Sinaï. Ça fait une théologie assez originale hein, qui est propre à Israël. C'est un Dieu que l'on rencontre dans l'histoire. Et là, ça va peut-être nous aider à comprendre un peu plus pourquoi l'identité est importante. C'est que ce peuple se développe dans un monde agricole polythéiste. Or, les divinités dans le monde et dans les sociétés de l'époque, qui sont des sociétés agricoles et polythéistes, les divinités sont des divinités de la nature et non des divinités de l'histoire. Vous voyez? Alors, le problème des générations qui vivent dans le royaume du Nord, dont nous parlions, et c'est longtemps après que Moïse est mort, leur problème, c'est qu'ils sont constamment tentés, génération après génération, de se prêter à des pratiques culturelles envers les dieux des Cananéens.
C'est ça. Hein? Épouser les autres religions,
oui,
quoi.
Oui, hein?
Aller chercher des éléments dans les autres religions.
C'est ça. Et peut-être, je vais rester dans votre métaphore d'épouser, en disant, c'est peut-être moins de les épouser que de flirter avec elles, vous voyez? Parce que pour ces gens-là, il ne s'agit pas de quitter la foi en Yahvé pour croire à Baal. Il s'agit de continuer de croire en Yahvé, puis de croire un peu aussi en Baal.
Aller chercher des éléments dans les autres
voilà,
religions.
Voilà, ce qu'on appelle du syncrétisme
de ces
religieux.
Peuples
qui, hein.
Des peuples qu'ils côtoient, parce qu'en terre de Canaan, c'est le Canaan qui est l'Israël d'aujourd'hui, dans lequel ils sont entrés, c'était pas seulement...
Ils ne sont pas les seuls.
Ils ne sont pas les seuls, non, voilà. Absolument. Il y a les Cananéens, justement, qui ont leur religion, leur divinité, leur culte, etc.
Oui, et c'est donc assez tentant à l'époque, surtout en milieu naturellement polythéiste, d'ajouter quelques dieux à sa religion et à ses pratiques sans avoir besoin de quitter pour autant. On ne change pas de religion, on rajoute. Vous voyez?
C'est ça.
Mm-hmm. Et l'appel à ce moment-là qui est fait à Israël, c'est d'être, je vais employer un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, monolatrique. C'est-à-dire que la conscience qu'il y a un seul Dieu dans l'univers n'est pas développée à cette époque-là. Ce qu'Israël a comme religion nationale, c'est la confiance à mettre en un seul Dieu, c'est Yahvé. Les autres peuples ont leur Dieu, nous avons le nôtre. C'est bien ce qu'on trouve, par exemple, chez Miché, qui est justement à la même époque que la chute du royaume du Nord, c'est-à-dire à la même époque que Amos et Osée, les années 730-20, Miché, au chapitre 4, « Les peuples marchent, chacun au nom de leur Dieu. Nous marchons au nom de Yahvé, notre Dieu. Les autres ont les leurs, nous avons le nôtre, et ce qui nous est demandé, c'est de rester fidèles au nôtre. On en a un seul, les autres en ont plusieurs, mais bon, nous, on est censé être fidèles au nôtre. C'est ça qui est demandé dans certaines couches plus anciennes du Deutéronome. Donc, qu'est-ce que le Deutéronome essaie de faire en développant le thème du Dieu qui s'est choisi un peuple? C'est d'insister pour que ce peuple ne se laisse pas assimiler par la culture ambiante, que ce peuple ne devienne pas cananéen, que ce peuple ne devienne pas polythéiste. Et l'identité nationale, je dirais, communautaire, parce que ce n'est pas des nations au sens moderne du terme, l'identité communautaire, elle est valorisée par le thème « Je t'ai choisi, moi, ton Dieu ». Alors, je t'ai choisi, je te suis fidèle, je t'ai sauvé, je vais continuer de t'être fidèle, je fais alliance avec toi et toi, tu vas m'être fidèle et tu n'iras pas flirter avec les dieux des autres, vous voyez? Mm-hmm. Et cette espèce de radicalisme religieux permettait à ce petit groupe de garder son identité. Mais pour ça, ça demande un certain radicalisme. Et vous voyez, ce n'est pas un danger virtuel, c'était un danger réel. Si ce livre-là est écrit comme ça, et je vous rappelle toujours qu'on a l'impression que c'est Moïse qui parle, mais que c'est écrit plusieurs siècles après, si ce livre-là insiste comme ça sur la fidélité nécessaire à Yahvé, c'est justement parce que c'est écrit par des hommes qui constatent que la fidélité à Yahvé, là, elle est battue en brèche constamment et qu'effectivement, tout le monde a un peu envie de faire un peu de baalisme, surtout probablement quand le temps de la pluie approche puis que la pluie ne commence pas. Vous voyez, ce genre de rite pour des religions agricoles.
On envie les autres peuples qui ont plusieurs divinités.
Et qui ont des rites rassurer quand la nature ne fonctionne pas comme elle devrait. Il y a des rites pour ça, puis il y a des prières pour ça. Mm-hmm. Et puis, quand les autres peuples sont victorieux, parce qu'il y a toujours des guerres aux alentours, y compris chez soi, leurs dieux doivent être plus forts que les nôtres. Peut-être qu'on pourrait aussi prier leurs dieux. Voyez? Mm-hmm. Et on voit bien que la réforme de Josias, dont je parlais tout à l'heure, si elle est nécessaire, cette réforme, c'est parce qu'il y a eu toutes sortes de syncrétismes, justement, religieux. Donc, quand le Deutéronome a l'air obsédé par cette idée « Vous êtes mon peuple, je vous ai choisi, restez-moi fidèle, je suis votre Dieu et vous n'en avez pas d'autre sous le ciel. » Quand il insiste avec autant de force, d'intensité, c'est parce que c'est écrit par des gens qui savent très bien que
ils savent ce qui
cela
se passe,
n'a
là.
Pas fonctionné.
Mmh, mmh. « Vous êtes à l'écoute de l'émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui reçoit à l'émission Francine Robert. Et nous regardons ensemble le livre du Deutéronome. Et là, un autre thème qu'on voudrait regarder ensemble, c'est celui du monothéisme dans ce livre.
Oui, ça. En fait, c'est, je dirais plutôt, c'est un autre aspect du thème de l'élection qui va nous aider à comprendre, parce que je ne pense pas qu'on a vraiment rendu compte réglé nos problèmes avec est-ce que Dieu se choisit vraiment un peuple. Oui, on l'a vu, à quoi ça sert? À l'époque où Israël vit en monde polythéiste et où Israël n'est même pas au clair lui-même sur l'existence d'un seul Dieu. Mais ça arrive à un moment donné, cette conscience d'un seul Dieu. Ça arrive au tournant de l'exil.
Il y a eu une évolution. Ce que vous dites, c'est qu'on disait le Dieu d'Israël, nous autres, notre Dieu, bon, Yahvé, et puis les autres peuples ont leur Dieu, leur divinité, etc. Mais tranquillement, il y a la conscience s'est développée pour en arriver à l'idée que, finalement, il n'existe qu'un seul Dieu, d'où le mot « mono », monos en grec, qui veut dire « seul », unique, et théos, quoi.
Tout à fait.
Le Dieu unique.
Oui, et c'est curieux, parce que vous avez bien raison de dire que ça s'est développé tranquillement, puis en même temps, ça vient tout d'un coup. Souvent, comme les conversions intellectuelles, je dirais, c'est-à-dire quand on change vraiment d'idée sur quelque chose d'important, on a l'impression que c'est assez soudain et c'est provoqué par un événement. Là, il s'agit de l'exil. Et en même temps, si on peut faire ce saut et ce virage, c'est probablement parce que l'idée mûrissait doucement, sans que
ça soit
clair.
Oui, puis à un moment donné, ça éclate. Quoi.
Oui, c'est ça. Et quand on dit ça éclate, c'est sûrement chez quelques théologiens de l'époque et non pas toute la population qui a bien d'autres choses à faire que de réfléchir. La plupart du temps, en tout cas sur des questions théologiques. Mais on le voit, on a des traces de la foi monothéiste. Un beau texte d'Isaïe au chapitre 19.
Ce jour-là, Israël viendra le troisième avec l'Égypte et la Syrie. Voici la bénédiction que prononcera le Seigneur. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Assour, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. C'est surprenant, ça, hein?
Oui, oui.
C'est très surprenant.
Parce que ces expressions-là, mon peuple, l'œuvre de mes mains, dans la plupart des traditions du Premier Testament, c'est associé à Israël. Et on voit ici très bien la perspective du monothéisme. Parce que qu'est-ce que le monothéisme? C'est la conviction qu'il n'y a qu'un seul Dieu, avec son corollaire. Donc, ce Dieu est le Dieu de tous les peuples. Ce Dieu s'intéresse à tous les peuples et à tous les humains.
Hein?
C'est ça, le corollaire direct. S'il y a un seul Dieu, il est pour tout le monde. Alors, ici, cette réflexion, elle est d'autant plus intéressante que l'Égypte est la figure, dans toute la tradition biblique, l'Égypte reste la figure par excellence de l'ennemi, celui qui nous a réduit en esclavage. Parce qu'on rappelle constamment l'Exode, la sortie d'Égypte, la délivrance de l'esclavage. L'Assyrie, ce texte-là est placé dans un chapitre d'Isaïe, c'est-à-dire à une époque où l'Assyrie est en train de conquérir la région après avoir détruit le royaume du Nord. On est exactement à la même époque que tout à l'heure, c'est-à-dire du 8e siècle, les années 720. Isaïe, dans le sud, voit le royaume du Nord en train d'être conquis par l'Assyrie. Et tout de suite, d'ailleurs...
Des peuples ennemis, finalement.
C'est des ennemis et des ennemis, soit très présents dans l'actualité politique et guerrière, soit très présents dans la symbolique de l'ennemi par excellence. Fait que, et les voici dits, déclarés comme étant le peuple du Seigneur, l'Égypte, l'œuvre de ses mains, Assyr, et Israël va venir avec eux. Donc, on voit ici une affirmation assez claire du monothéisme, donc de l'universalité de Dieu. Et évidemment, il n'y en a pas beaucoup de ces textes-là, de sorte qu'on continue à être agacé de lire les fréquentes affirmations sur Israël comme étant le peuple choisi par Dieu, et on oublie.
Et probablement que dans la liturgie, je serais curieux de voir, mais moi, je pense que ce texte-là, on ne nous le sert pas.
C'est possible.
Dans la liturgie du dimanche,
s'entend. Oui, oui, oui. C'est possible. Mais il reste que le monothéisme, c'est ça, est venu assez tardivement. Et c'est un saut qualitatif. C'est pas une question de quantité. C'est pas juste la différence entre il y en a beaucoup ou il y en a un. c'est un saut qualitatif, c'est-à-dire c'est la conscience de la transcendance absolue de la divinité. La divinité n'est pas multiple parce que la divinité n'est pas manifestée dans l'orage, dans la récolte du blé, dans la rivière, dans l'océan. La divinité n'est pas de ce monde. La divinité est hors du monde. Donc, il n'y a un seul Dieu. Et ça, c'est vraiment avec l'exil. D'ailleurs, le très beau récit de création en 6 jours, l'hymne, il lutte un soir, il lutte un matin, c'est un texte qui affirme cette transcendance absolue de Dieu par rapport au monde. C'est un texte qu'on date de l'exil ou de peu après l'exil. Donc, on est rendu au 6e siècle. Et vous voyez, le Deutéronome fait partie de ces groupes de théologiens qui porte cette nouvelle réflexion théologique. Et c'est affirmer l'unicité de Dieu dans un passage du Deutéronome que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas beaucoup, mais que tous les Juifs connaissent par cœur et que Jésus a dit tous les jours de sa vie après avoir appris à parler. C'est le credo de base d'Israël qu'on trouve dans le Deutéronome au chapitre 6, les versets 4 et suivants.
Dans le jargon, on dit le schéma, hein?
Oui,
le schéma qui veut dire « écoute ». Oui. Au chapitre 6 du livre du Deutéronome, que tout bon juif récite à tous les jours, encore aujourd'hui, c'est « écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force ».
Oui, et on reconnaît ici ce que Jésus a cité en réponse à la question « quel est le plus grand commandement ?» Ça vient de là. Donc, vous voyez, Israël affirme avec force dans un texte comme celui-là le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que donc c'est le Dieu de tout le monde. On peut s'imaginer que une fois que cette conviction-là est vraiment devenue naturelle, ça a dû prendre quelques siècles, hein, une fois que le judaïsme de tout le peuple est devenu vraiment monothéiste, ce qui est fait à l'époque de Jésus, ça c'est très clair, et certainement quelques siècles avant, c'est devenu vraiment une religion qui est persuadée, intimement persuadée, que la divinité n'est pas partie prenante de ce monde et n'est pas multiple, c'est ça. Et qui répète cela, cette prière-là, chaque jour, en disant « écoute ». Une fois que les gens sont persuadés de ça, ils continuent de vivre dans un monde polythéiste, ces gens-là. Il doit certainement se demander, mais comment ça se fait que les autres peuples qui sont aussi concernés par ce Dieu unique et les autres peuples qui sont aussi aimés de ce Dieu unique, comment ça se fait personne n'a l'air de savoir qu'il y a un seul Dieu? Comment ça se fait que tous ces peuples-là ont encore tendance à croire en des dieux qui, pour eux, c'est devenu évident, ne sont pas des dieux mais des idoles? Je dis pour eux, c'est devenu évident. Ça ne l'était pas du tout à l'époque de Osée, voyez, mais là, ça l'est devenu. Quand on se pose une question comme moi, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer ce que les gens pouvaient se répondre. On pourrait très bien se dire, c'est parce que nous, on l'a trouvé, puis on est plus brillant que les autres, finalement. Nous, on le sait. Hein? On a compris ça, ça fait longtemps, puis les autres, ils sont pas rapides. Hein? Voyez. Ou alors, on peut se dire, on n'est pas vraiment plus fin que les autres. Donc, si on a compris qu'il y a un seul Dieu, ça doit être parce que lui nous l'a fait comprendre. Si on n'est pas plus brillant que les autres, ça doit être parce qu'il a vraiment insisté pour nous le faire comprendre à nous. Vous voyez, c'est ça le thème de l'élection revisité après la conviction qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est, mais d'où nous vient cette conviction? Et si on n'est pas là en train de se dire on est plus mystique, on est plus saint, on est plus brillant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est lui qui nous l'a dit. Sûrement, on n'aurait pas trouvé ça tout seul. Et donc, il nous l'a dit à nous. Pourquoi il nous l'a dit à nous?
Et comment ça se fait que c'est nous, finalement?
Puis nulle part, il y a...
Il n'y a pas de réponse à ça.
D'opération, se péter les bretelles, si je peux me permettre. Nulle part. Et on a bien dans le Deutéronome une certaine réflexion. C'est au chapitre 7. Si Yahvé vous a choisi, toujours mis dans la bouche de Moïse, cette parole. Si Yahvé vous a choisi, ce n'est pas parce que vous êtes le plus nombreux de tous les peuples. Hein. Vous êtes le plus petit. C'est par amour pour vous, pour garder la promesse faite à vos pères. que Yahvé vous a fait sortir, vous a délivré de la maison de servitude. Vous voyez, ça n'est jamais traité, le thème de l'élection, donc, ça n'est jamais traité du point de vue du mérite d'Israël, mais toujours présenté comme une pure gratuité. Comment connaissons-nous ce Dieu-là? Parce que Dieu seul sait pourquoi, c'est le cas de le dire, il a décidé de se faire connaître à nous. Ce que nous, les chrétiens, et la tradition juive aussi, après coup, on appelle la révélation. C'est ça qu'on appelle la révélation. Et c'est ça que Israël affirme en disant « Dieu nous a choisis, non pas pour nos mérites, et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs il nous a choisis, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on le connaît et on est à une époque où personne ne semble le connaître. Donc, il doit nous l'avoir dit d'une manière spéciale, on ne sait pas pourquoi. »
Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Vous avez entendu des chants séfarades de fêtes religieuses juives. C'est Claude Julien qui vous parle. Je vous souhaite une très bonne semaine à notre antenne.